Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce nouvel épisode de notre série sur les rendez-vous du reporting de durabilité. Notre webcast aujourd'hui concerne les hot topics concernant la taxonomie, un épisode supplémentaire et qui portera aujourd'hui plus particulièrement sur les problématiques d'alignement au sens du règlement européen sur la taxonomie. Alors, pourquoi en parle-t-on aujourd'hui? Bien parce que la Commission européenne a publié le 19 décembre 2022 221 questions-réponses pour préciser un certain nombre de modalités d'application du règlement taxonomie. Il y en a eu 34 qui sont relatives à l'acte délégué sur l'article 8, donc aux KPIs et aux disclosures, et 187 qui sont relatives à l'acte délégué climat. Alors, pour mémoire, en 2023, les entreprises doivent effectuer au titre de 2022 un reporting complet sur les deux objectifs climat, que sont atténuation et adaptation au changement climatique, en présentant leur chiffre d'affaires, CAPEX et OPEX alignés. Alors, au programme ce matin, d'abord une partie consacrée aux questions-réponses qui ont été publiées par la Commission européenne pour les entreprises non financières. Ensuite, on abordera un certain nombre de sujets qui n'ont pas été traités dans les questions-réponses, par exemple les garanties minimales, mais qui nous semblent importants d'aborder. Et on terminera avec un retour d'expérience sur le projet taxonomie et les difficultés rencontrées par un des émetteurs français. Alors, pendant cette session, n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez une boîte de chat dans laquelle vous pouvez les poster et on essaiera d'y répondre dans la mesure du possible en fin de session. Alors, on a le plaisir aujourd'hui d'être accompagné par Yanjar Amananarivo, qui est directrice de la régulation des émetteurs aux affaires internationales de l'AMF. Et pour le côté opérationnel, par Thibault Grandjean, Finance Transformation and Sustainability Leader chez Dassault Systèmes. Également présents à cette présentation, nos experts PwC, Olivier Muller, Anne Langlet, Stéphanie Morel et Meriem Gedidi. Je précise qu'Anne Langlet est également responsable du groupe de travail taxonomie à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, et ainsi que moi-même, Olivier Scherrer, qui assurerait la coordination de ce webcast. Alors, une première question, Anne, pour commencer, je pense qu'il serait utile de rappeler les principes fondamentaux de la taxonomie avant de rentrer plus en détail. Anne.
Oui, bonjour à tous. Merci Olivier. Donc, vous le savez tous, dans ces webcasts, on a pu traiter les éléments sur la taxonomie pour les débutants. Mais ce webcast ici va être vraiment dédié aux FAQ. Donc, on va traiter certains sujets, on ne pourra pas tous les traiter. Malgré tout, comme on a certaines personnes qui démarrent sur le sujet dans ce webcast, on fait quelques rappels. Donc, la taxonomie, qu'est-ce que c'est? Donc, pour les corporates, la taxonomie, l'output final, c'est de reporter trois indicateurs: chiffre d'affaires, CAPEX, OPEX durable. Et donc, la taxonomie, elle définit, ce règlement définit ce qu'est une activité durable. Donc, l'idée derrière tout ça, la Commission européenne, c'est d'orienter les flux de capitaux vers des activités plus durables. Et ces activités durables, elles sont listées dans des actes délégués. C'est comme un dictionnaire des activités durables selon la Commission européenne. Voilà. Donc, en ce moment, on se concentre sur deux objectifs climatiques, l'atténuation et l'adaptation. Et on aura quatre autres objectifs environnementaux plus tard. Et peut-être une taxonomie sociale, mais ça a fortement ralenti côté européen. Pour l'instant, on se concentre vraiment sur les objectifs environnementaux. Un petit rappel sur le slide suivant, qui est concernant les textes. J'ai parlé des actes délégués. Donc, on a sur la gauche tout ce qui est obligatoire qui émane de la Commission européenne. On a ce règlement taxonomie, l'acte délégué climat, l'acte délégué article 8 qui porte sur les disclosures, les KPI, et l'acte délégué sur le nucléaire. Donc, c'est un acte délégué complémentaire. Et ensuite viennent ces FAQ qui émanent de la Commission. On en a eu deux wagons l'année dernière en décembre et en février 2022. Et là, on a eu en décembre plusieurs donc FAQ et c'est le sujet du jour. Voilà. Et ensuite, on a tout un tas de rapports que je ne vais pas détailler, mais qui émanent de la plateforme Sustainable Finance et donc du coup qui donnent pas mal d'indications, mais qui ne sont pas obligatoires, qui sont de la guidance. Donc ensuite, sur ce slide-là, on vous fait quelques rappels, je vais aller très vite, d'un point de vue théorique. La taxonomie, elle peut être comprise comme une démarche en 5 étapes qui s'articule autour vraiment de concepts fondateurs, le concept d'éligibilité et le concept d'alignement. Donc l'identification de ces activités, c'est l'étape 1. On est dans la question est-ce qu'une activité est éligible et du coup, on doit se baser sur la description de l'activité. Ensuite, il y a cette histoire de contribution substantielle. Est-ce que je respecte des critères techniques environnementaux ? Donc, ces fameuses activités qui sont listées dans les actes délégués avec des critères techniques. Les DNSH, Do Not Significant Harm, donc c'est ne pas causer de préjudice aux autres objectifs. Et là encore, on a des critères techniques. Et ensuite, on a le fait d'être compliant avec ces garanties minimales. Et ensuite, on peut calculer les KPI. Voilà. Olivier, je te repasse la parole.
Merci Anne pour ce rappel. Alors maintenant, passons, rentrons dans le vif du sujet avec les FAQs publiés par la Commission européenne. Bon, on vous a donné le nombre, hein, c'est un nombre impressionnant, donc on ne pourra pas les aborder toutes. Donc on a fait une sélection en priorisant ce qui pouvait impacter le plus d'entreprises. Bon, par exemple, nous ne traiterons pas des sujets sectoriels, sauf certains sujets immobiliers en fin de session. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail de ces FAQs, donc 221, j'ai dit tout à l'heure, 187 qui portent sur l'acte délégué climat, qui traite deux sujets transverses, deux questions qui portent sur des secteurs spécifiques, et pour finir, elle traite de questions techniques sur les DNSH, et les 34 autres portent sur l'acte délégué article 8, et apporte notamment un certain nombre de précisions sur les modalités de calcul des KPIs, ainsi que sur des sujets transverses, comme par exemple le calendrier d'application ou l'impact de la CSRD, le double comptage, etc. Alors, pour commencer, je me tourne vers Yanja Ramananarivo. Yanja, qu'est-ce qu'on peut retirer de ces FAQs et quelles en sont leurs limites?
Oui, bonjour Olivier, bonjour à tous. Merci pour cette invitation aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais saluer le travail de la Commission européenne qui a mené à la publication de ces deux documents. C'est un travail conséquent de collègues, de tri, de réflexion et d'échange pour aboutir à plus de 200 questions et réponses. Côté AMF, dans notre rapport qui avait été publié en novembre 2022 sur les premiers reporting taxonomie des sociétés, on avait relevé des divergences de pratiques dans l'application de la réglementation qui s'expliquaient notamment par le manque de précision des textes qui ont donc amené les sociétés à exercer leur jugement. Donc, on avait appelé de nos voeux ce travail de clarification des textes. Et donc, aujourd'hui, on accueille évidemment très favorablement ces FAQ qui sont clés pour aider à l'implémentation de la réglementation et harmoniser les pratiques et donc, in fine, contribuer à accroître la comparabilité. Pour ce qui est du contenu des FAQ, donc ils sont focalisés essentiellement sur l'alignement puisqu'on rentre dans le dur des reporting cette année, du moins pour les sociétés non financières, avec ces indicateurs d'alignement à publier après l'étape préliminaire d'éligibilité. Donc le premier volet de FAQ donc, couvre les sujets calculatoires, comme ça a pu être le cas des précédents FAQ, donc des clarifications sur les modalités d'application de l'acte délégué. Dans les éléments que je trouvais intéressants et importants dans ce volet article 8, c'est la réaffirmation peut-être du lien fort de la connectivité entre les indicateurs taxonomie et les indicateurs financiers traditionnels. La Commission renvoie dans un certain nombre de réponses aux éléments ou aux principes comptables. Il y a des clarifications qui étaient très attendues sur les sujets activités adaptation et habilitante. Je ne m'attarde pas dessus parce que vous allez, j'imagine, l'évoquer. Et puis, des questions récurrentes qu'on avait, nous, c'était sur les doubles comptages ou les questions des parties prenantes sur notamment l'application de la matérialité. Donc, les FAQ clarifient ces éléments. Une vraie nouveauté dans ces guidelines de la Commission, c'est vraiment le volet acte délégué climat qui traite donc des modalités d'application des critères techniques qui permettent de démontrer cet alignement. Donc, on a les aspects de contribution substantielle, les DNSH. Donc, c'est un vrai apport. Il y a beaucoup de questions de plusieurs industries jusque-là. Et donc, en cela, le travail est plus qu'utile. Comme tu me posais la question des limites, je pense qu'on attendait des clarifications sur d'autres sujets, la mise en œuvre, par exemple, des garanties minimales à la suite du rapport de la plateforme. Bon, on comprend que le travail n'est pas terminé côté commission, donc on attend encore ces clarifications. On peut voir que certaines réponses apportées peuvent encore finalement poser de nouvelles questions. Donc, il est important que, voilà, qu'on réunisse à nouveau ces éléments-là pour essayer de clarifier encore ces points. On comprend également que la commission se penche sur des FAQ spécifiques aux sociétés financières, puisqu'aujourd'hui, dans ces FAQ, on n'a que les sociétés non financières qui sont traitées. C'est des réponses qui seront utiles pour la préparation de reporting d'alignement et on espère effectivement avoir ces réponses dans un calendrier qui permette cette préparation. Donc, le travail de clarification n'est pas fini, il doit continuer.
Merci beaucoup, Yanja. Donc, ce sont des questions-réponses qui sont utiles, mais une question qui se pose, c'est est-ce que leur application est obligatoire ?
Alors, les premières pages de ces publications de la commission expliquent l'objet de la communication. Donc, la commission précise que ces FAQ clarifient des dispositions existantes dans la législation applicable, que ces FAQ n'étendent pas les droits et obligations découlant de cette législation et n'introduisent pas d'exigences supplémentaires. Donc, l'objectif, c'est de clarifier les textes, aider les parties prenantes concernées. Donc, on est donc face à des outils développés par la commission. Dans le process, ils ont été approuvés par le Collège des commissaires et vont être formellement adoptés pour une publication au journal officiel après la traduction dans les langues officielles de l'UE. Donc, face à ces outils et ces guidance qui, certes, n'ont pas autorité devant la Cour de justice de l'Union européenne, comme l'indique clairement la Commission dans son document, on se dit qu'il s'agit quand même des seuls éléments aujourd'hui disponibles, rédigés par l'institution qui a elle-même adopté la législation, le règlement et les actes délégués dont on parle aujourd'hui. Donc, à notre sens, il convient d'appliquer ces FAQ. C'est important pour l'homogénéité, l'harmonisation des pratiques au niveau européen et la comparabilité des approches. Donc, l'ESMA l'a rappelé hein, dans ses Common Enforcement Priorities pour 2022, donc les priorités de supervision commune. Si certaines dispositions de ces FAQ n'ont pas pu être appliquées pour des circonstances ou des raisons particulières, il est important d'être très transparent dans la DPEF en expliquant la situation et en exposant les raisons ou les circonstances ayant amené à cela.
Beaucoup, Yanja, donc elles sont utiles, elles favorisent l'homogénéité, donc effectivement il y a bien une attente d'être qu'elles soient appliquées. Alors maintenant, donc rentrons dans le détail de certaines d'entre elles. Donc on les a sélectionnées en fonction de leur degré de pertinence, de leur portée. Alors, on va commencer par les FAQs de l'acte délégué article 8. Alors, Anne, qu'est-ce que nous apprennent ces FAQs sur le calendrier applicable aux sociétés industrielles et commerciales ?
Oui, merci Olivier. Alors, on va commencer doucement. On commence par le calendrier. C'est des choses qu'on avait déjà évoquées avec vous lors des webcasts précédentes, mais ça vient au moins confirmer notre compréhension. Donc, sur ce calendrier, vous retrouvez évidemment que l'année dernière, on était sur l'éligibilité. Cette année, on est sur l'alignement sur le climat. Et du coup, se posait la question du gaz et du nucléaire, donc applicable cette année en même temps que le climat pour éligibilité et alignement. Du coup, l'année prochaine, on sera sur un deuxième reporting d'alignement, toujours sur le climat. Pourquoi est-ce qu'on précise ça ? Parce que l'année prochaine, comme on aura déjà produit les comparatifs cette année, eh ben, il y aura un comparatif qui sera nécessaire, ce qui n'est pas le cas en premier reporting d'alignement cette année. Et ensuite, dernière précision, alors ce n'est pas tout à fait clair dans les FAQ, mais malgré tout, c'est quand même la compréhension à date. Les quatre autres objectifs environnementaux, la Commission a vraiment un peu de retard hein, dans le développement des critères. Donc, les actes délégués vont être publiés plus tard et donc on serait sur une application finalement en même temps que la CSRD, c'est-à-dire en 2025 sur la base du reporting 2024. Voilà.
Alors, parlons maintenant des différents KPIs. On va aborder une série de FAQ sur ce thème. La première, est-ce que le KPI sur les OPEX hein, est obligatoire ?
Alors, donc déjà, on a trois KPI, chiffre d'affaires, CAPEX, OPEX. Ces trois KPI sont obligatoires, mais il y a une exception sur les OPEX qui s'appelle l'exemption de matérialité. Donc, on peut être exempté sous certaines conditions. Quelles sont ces conditions ? La première condition, déjà, c'est d'aller dire qu'on est exempté. Donc, c'est-à-dire, un, il va falloir publier le numérateur des OPEX à zéro. Et deux, expliquer le dénominateur, le total du dénominateur des OPEX. Et ensuite, l'explication qui est très importante pour expliquer cette non-matérialité des OPEX, c'est un, d'expliquer d'une manière quantitative que vraiment le dénominateur des OPEX, selon la définition de la taxonomie, qui, je le rappelle, donne une définition des OPEX un peu hors sol, dans le sens où elle est extrêmement restrictive, hein, ce n'est pas du tout la définition des OPEX telle qu'on l'a en tête d'habitude, et donc du coup, il faut venir expliquer en quoi est-ce que notre total OPEX de la taxonomie du dénominateur est non significatif par rapport à notre total OPEX, de nos OPEX, de nos états financiers consolidés. Et ensuite, ils font aussi une explication qualitative. Pourquoi ? Ben parce qu'il y a certains business models d'entreprise où la nature des OPEX peut permettre de dire que vraiment, ce n'est pas un sujet significatif, et ce ne serait pas le cas dans d'autres. Voilà. Et quoi qu'il arrive, gardez quand même en tête que ça n'exempte pas que de publier les templates à zéro. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces templates ? Ben, pour les besoins du secteur financier et aussi dans la perspective de la CSRD qui arrive avec l'obligation de tagging XBRL. Donc les templates, même à zéro, seraient obligatoires. Maintenant, on a un autre sujet qui est le sujet des KPI additionnels qui a été précisé par la Commission. Donc, on en avait déjà parlé, donc il n'y a pas vraiment de surprise dessus, mais c'est quand même important d'en reparler parce que là, c'est clairement inscrit dans les FAQ. Et surtout, donc, l'idée, c'est qu'on a trois KPI. Est-ce qu'on a le droit de publier des KPI additionnels ? Par exemple, des KPI additionnels sur des activités qui ne sont pas aujourd'hui inscrites dans les actes délégués de la taxonomie, donc avec des activités potentiellement éligibles, mais qui ne le sont pas, ou alors, je ne sais pas, des EBITDA, donc des KPI qui ne sont pas taxonomiques, mais ce seraient des KPI additionnels. Donc, on a le droit, mais en étant très prudent, et surtout, par analogie, on vient appliquer la guidance de l'ESMA sur les alternatives performance measures. Donc, il va falloir bien expliquer en quoi est-ce qu'on réconcilie ces indicateurs à ceux qui sont obligatoires, et du coup, qui ne deviennent pas prépondérants par rapport aux autres. Et du coup, ben par exemple, le KPI qu'on affiche sur ce slide sur un KPI chiffre d'affaires après mise en équivalence, c'est un KPI additionnel. Voilà. Et du coup, il faut respecter les éléments dont je viens de parler avec la guidance de l'ESMA. On peut continuer avec cette thématique des KPI, avec le sujet des sustainable bonds. Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas du tout clair dans le règlement taxonomie. Pour être tout à fait transparente, les FAQ viennent préciser certains éléments, mais tout n'est pas forcément clair pour le moment. On vous a pris l'exemple du KPI CAPEX. Donc on est dans une entreprise qui a émis un sustainable bonds, et du coup, ce que dit là la FAQ, c'est pour les besoins du secteur financier, il va falloir faire des retraitements. Pourquoi ? Parce que quand on est dans le cas d'une banque, pour éviter les doubles comptages, dans le cas des CAPEX, ils sont déjà pris en compte dans le GAR, donc l'indicateur du secteur financier. Et donc, dans ce cas, côté corporate, il va donc falloir produire des KPI additionnels pour les CAPEX, par exemple, en disant, bon, bah, voilà mon KPI additionnel retraité des sustainable bonds pour pouvoir répondre à ce besoin du secteur financier. Donc, si on prend l'exemple de la société Corporate X qui a financé 20% de ses CAPEX alignés par des sustainable bonds, et ben, en plus de son ratio obligatoire, elle va devoir présenter un ratio additionnel qui prendra en compte le fait qu'une partie de ses investissements a été financée par sustainable bonds. Et donc, du coup, dans notre exemple, elle présentera son ratio de 60%. Et du coup, elle présentera aussi le deuxième ratio ajusté de la quote-part financée par Sustainable Bonds. Donc, à noter que ces ratios, on présente le sujet des CAPEX, on est aussi censé venir ajuster les autres KPI, sauf que celui sur le chiffre d'affaires pose des questions. Donc, on est dans le cas que précisait Yanja au début de la conférence, qui est certaines FAQ peuvent générer des questionnements. Donc, n'étant pas clair, on reviendra vers vous sur ce point. Voilà, ça fait partie des FAQ à suivre.
Alors, merci pour ces premiers éléments, Anne. Alors, maintenant, passons aux FAQs qui sont relatives à l'éligibilité. Comment s'assurer qu'une activité est éligible dans l'objectif, adaptation?
Oui, alors l'objectif d'adaptation, déjà, il faut rappeler, alors ça c'est un sujet que tout le monde n'a pas compris encore. Donc l'objectif d'adaptation, c'est vraiment un sujet plutôt de CAPEX. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour le dire avec mes mots, on investit pour s'adapter. Donc on n'est pas tant dans une logique de chiffre d'affaires, on est vraiment plutôt dans une logique d'investissement dans la plupart des cas. Et donc, je vais vous rappeler en premier lieu les définitions des activités adaptées et des activités habilitantes. Donc, dans le cas des activités adaptées, on est dans cette logique d'investissement, on investit pour s'adapter, c'est donc des CAPEX et des OPEX qui peuvent être alignés. Et ensuite, par exception, il y a certaines activités qui ont été taguées dans notre acte délégué climat adaptation comme des activités habilitantes. C'est clairement inscrit dans les critères, elles sont habilitantes et la Commission les a libellées en tant que telles. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'elles sont habilitantes? Eh bien, parce que c'est des activités qui peuvent permettre à d'autres activités de devenir adaptées. Donc clairement, les activités sont taguées dans l'acte délégué et surtout le point à avoir en tête, c'est que ce chiffre d'affaires d'adaptation, il est très particulier pour le chiffre d'affaires parce qu'on a le droit de comptabiliser du chiffre d'affaires seulement pour les activités habilitantes. C'est vraiment des activités un peu exceptionnelles qui permettent à d'autres de s'adapter. Donc, c'est des entreprises qui proposent des solutions qui permettent aux autres de s'adapter. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait ce rappel sur l'adaptation? Et on peut passer au slide suivant. C'est que l'année dernière, il y a énormément d'encre qui a coulé sur le sujet de l'éligibilité. Et finalement, on en est arrivé à des positions qui étaient très hétérogènes. Pourquoi? Ben parce que chacun a compris l'éligibilité sur l'adaptation un peu à sa manière. Donc là, la Commission est venue préciser ce qu'elle entendait par la notion d'éligibilité sur les activités adaptées et sur les activités habilitantes. Ça a le mérite de clarifier, sauf que ce qui clarifie n'est pas très cohérent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais malgré tout, au moins, on sait ce qu'on doit faire et ça va éviter le fait d'avoir de l'hétérogénéité. Donc, dans les activités adaptées, qu'est-ce que c'est qu'une activité éligible? On a pris l'exemple des maisons de retraite parce qu'on est dans l'objectif adaptation. Donc, Residential Care Activities. Donc là, on dit l'éligibilité. On n'est pas que sur la description de l'activité. Ce n'est pas décisif. Mais par contre, il va falloir qu'on aille regarder si déjà, quand on investit donc, dans des CAPEX et des OPEX, il faut déjà que on soit dans une logique qui est reliée à notre plan d'adaptation. C'est-à-dire qu'on va être plutôt dans une vue stricte. Donc, on ne va prendre déjà que dans l'éligibilité que certaines choses reliées à notre plan d'adaptation. Donc, on est vraiment dans un lien lié à la logique d'adaptation. Alors que la notion d'éligibilité pour les activités enabling, eh ben là, elle est beaucoup plus large. Et donc, c'est-à-dire que là, on prend l'exemple des médias qui sont dans l'objectif d'adaptation, qui est tagué comme étant une activité enabling. Et bien là, on nous dit pour celle-là, il faut juste regarder la description. Et quand on regarde la description, la vue est très large. On n'est pas en train de dire, vous ne prenez que les programmes qui sont liés au climat, vous prenez l'ensemble des programmes, donc 100%. Donc on voit bien que dans l'approche, il y a une décorrélation entre le sujet des CAPEX pour les activités adaptées et par exemple le sujet du chiffre d'affaires pour les activités enabling avec une vue large. Voilà, au moins c'est clarifié, mais pas cohérent.
Merci Anne. Alors maintenant passons au chiffre d'affaires des sous-traitants. Est-ce qu'ils doivent être pris en compte dans le calcul des KPIs?
Oui, alors ça pareil, ça vient confirmer quelque chose qu'on avait un peu décodé pendant les mois précédents. Donc toute la question ici, c'est de savoir est-ce que je peux comptabiliser comme aligné du chiffre d'affaires où j'ai sous-traité la prestation. Et là, on est exactement dans le cas qu'a précisé Yann Jam dans ce qu'elle retenait des FAQ qui est. Ils ont toujours essayé de coller à la comptabilité, à l'esprit de la comptabilité. Donc là, en fait, on se dit, la Commission vient dire merci de suivre ce que dit IFRS 15. C'est-à-dire que si vous sous-traitez une activité, mais que vous êtes principal, donc que vous comptabilisez du chiffre d'affaires IFRS 15, eh bien, vous aurez le droit de comptabiliser ce chiffre d'affaires aligné. Donc, dans le cas du transport, j'effectue enfin, j'ai du chiffre d'affaires transport, mais je le sous-traite, même si je n'opère pas le transport, mais si je suis principale, j'ai le droit de comptabiliser ce chiffre d'affaires comme aligné.
Maintenant, comment traiter les CAPEX hein, relatifs à ces activités?
Alors, il y a eu un autre sujet, donc une FAQ qui a posé quelques questions à certaines entreprises. Donc là, ils sont venus le préciser. Alors, pareil, la conclusion à laquelle arrive la commission peut être discutable et peut-être que ce sera une des FAQ qui ferait l'objet d'un suivi dans les discussions de place, encore une fois. Là, la question, c'était quand j'ai une subvention, du coup, qu'est-ce que je prends en termes de CAPEX? Est-ce que je prends un CAPEX brut ou un CAPEX net? Et là, la commission est venue dire, peu importe le mode de financement, quand vous avez une subvention, eh ben, vous allez prendre dans vos CAPEX pour la taxonomie le CAPEX regardless, sans prise en compte de la source du financement. Donc, vous prenez le CAPEX sans la subvention. Voilà, au moins, ils ont le mérite d'être venus préciser ça.
Alors, on a parcouru un certain nombre de FAQs sur l'article 8. Donc, passons maintenant aux FAQs de l'acte délégué climat. Et d'ailleurs, au cas particulier de l'article 8, hein, je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler que le climat rejoint les sujets de comptabilité. Donc, c'est là qu'on voit, d'un point de vue opérationnel, qu'il y a des interactions entre les sujets de taxonomie et les sujets de comptabilité. Donc maintenant, passons aux FAQs relatifs à l'article 8, acte délégué climat. Et je vais passer la parole à Olivier Muller. Est-ce que tu peux nous dire, Olivier, comment traiter les services de conseil technique hein? Est-ce qu'ils sont toujours éligibles si l'activité à laquelle ils se rattachent est elle-même éligible?
Bonjour à tous. Alors effectivement, c'est une question... Je commence par te répondre non, je suis désolé ce matin, mais effectivement tous les services de conseil technique ne sont pas éligibles, même si l'activité à laquelle ils se rattachent est elle-même éligible. Par exemple, le 3.1 ne mentionne pas dans sa description des notions comme les services de conseil technique. Pour que les services soient éligibles, il faut qu'ils soient explicitement prévus dans la description de l'activité. Et la référence au code NAS n'est pas suffisante. Par exemple, pour les activités 9.1 et 9.3, il est indiqué explicitement que les services de conseil technique, de gestion de l'énergie, d'audit énergétique sont éligibles. Et c'est aussi le cas des bureaux d'études. Alors, si on passe à une autre question qui a également été largement débattue, c'est comment interpréter l'utilisation de AND et OR dans la description des activités économiques. Alors, c'est peut-être la FAQ la plus importante des FAQ publiées en 2022. Pourquoi ? Parce qu'elle vient légitimer que dans certains cas, les critères techniques peuvent être ignorés car ils ne sont pas pertinents pour une activité. Par exemple, sur l'activité 6.15, on a des activités de construction, mais aussi de maintenance d'infrastructures low carbone. Mais le DNSH qui est relatif à l'économie circulaire ne fait référence qu'à l'activité de construction et de démolition. Donc, le critère n'est pas applicable pour une entreprise qui n'aurait qu'une activité de maintenance. Au total, la situation est à analyser au cas par cas. Il faut faire preuve de jugement et être assez transparent.
Alors, si on passe maintenant aux activités manufacturières et au sujet chaîne de valeur, prenons le cas d'une activité qui est éligible. Est-ce que tu peux nous dire si l'activité d'un fournisseur qui fournit un composant ou une technologie à une activité éligible est elle-même éligible?
Alors, ce sujet a déjà été abordé dans la FAQ précédente et donc la commission revient sur ce sujet. Qui est important. Donc l'activité d'un fournisseur qui est dans la chaîne de valeur d'une activité éligible n'est pas nécessairement éligible. Elle peut l'être, son activité peut être éligible si l'activité est décrite dans l'acte délégué ou si la description fait explicitement référence à un composant ou à une certaine technologie. Là aussi, c'est donc au cas par cas. Voilà. Et puis à noter que la Commission a prévu de préciser le traitement des composants clés, key components, dans des révisions futures.
Alors, je vous avais dit qu'on aborderait quelques questions sectorielles. Donc, on en a deux sur le secteur de l'immobilier. Pour être éligibles, certaines activités doivent respecter des seuils en matière de performance énergétique et le respect de ces seuils doit être certifié par ce qui s'appelle un EPC, un certificat de performance énergétique. Alors, Olivier, est-ce que tu peux nous dire si les certificats de performance énergétique peuvent être basés sur la consommation plutôt que sur la demande d'énergie primaire?
Alors pour rappel, en fait, il peut y avoir deux types de certificats. Donc un certificat basé sur la demande en énergie, donc la quantité calculée d'énergie nécessaire à l'utilisation du bâtiment, c'est un calcul théorique, et un certificat basé sur la consommation d'énergie des bâtiments. Effectivement, dans certains États membres, les EPC sont basés sur la consommation d'énergie et pas sur la demande. Donc dans ce cas-là, la FAQ signale que ce type de certificat basé sur la consommation peut être utilisé à la place d'un EPC basé sur la demande, mais seulement si c'est dans un cadre officiel. Alors si on poursuit avec une autre FAQ sur l'immobilier, cette fois-ci sur l'activité 7.1 concernant la construction d'un nouveau bâtiment. La question qui est tranchée par la FAQ, c'est de savoir si le scope de l'activité du 7.1 est limité à la construction de nouveaux bâtiments ou s'il peut également être étendu aux sociétés qui demandent à une société de construction de construire un bâtiment. Par exemple, je suis une société qui fabrique des voitures. Est-ce que je rentre dans le scope de l'activité 7.1 si je fais construire mes bureaux à une entreprise de construction? La réponse fournie par la FAQ est oui. Et donc, on est en train de dire que les entreprises auraient le choix entre les critères 7.1 et 7.7 dans ce cas-là.
Merci pour ces précisions, Olivier. Alors, on va aborder maintenant une partie sur les DNSH. Nous allons présenter les points techniques sur les DNSH biodiversité, pollution et adaptation au changement climatique. Les actes délégués ne sont pas prescriptifs sur la manière dont les DNSH doivent être analysés. Et les FAQ ont apporté quelques éléments de réponse, mais qu'on va regarder ensemble. Alors, première question, Olivier, comment appliquer le DNSH biodiversité en pratique?
Alors, quelques rappels en pratique sur le DNSH biodiversité. Donc, on est là sur l'annexe D, qui donne des indications générales sur comment prendre en compte l'aspect biodiversité. Donc, il faut réaliser un Environmental Impact Assessment, donc une étude d'impact environnemental, ou bien réaliser un screening pour s'assurer qu'un projet ou un site n'a pas d'effet négatif sur l'environnement. Et des mesures d'atténuation de compensation doivent être mises en place le cas échéant. De plus, si le projet se situe dans une zone protégée, comme les zones Natura 2000, un screening doit être réalisé et des mesures doivent également être prises, mises en place, si nécessaire. Donc, cette étude d'impact ou ce screening doivent être réalisés conformément à certaines directives européennes, ce qui pose des difficultés pour les sites qui ne sont pas en Europe. Donc, dans le FAQ, première chose, la Commission européenne rappelle qu'en dehors de l'Union européenne, il faut utiliser les lois locales si elles sont équivalentes ou se référer à un standard publié par l'IFC. Alors, si aucune étude d'impact n'est requise par la loi, la société doit néanmoins réaliser un screening afin de s'assurer que l'étude d'impact n'est pas nécessaire et donc que la société ne porte pas atteinte à la biodiversité. En revanche, dans les cas où l'étude d'impact est requise par la loi, l'entreprise doit réaliser et donc après se conformer aux éventuels critères techniques additionnels précisés dans l'acte délégué. On note qu'en pratique, les sociétés sont confrontées à une difficulté, notamment sur les sites qui sont construits avant l'application de la directive de 2011. Donc, il n'y a pas de position dans les FAQ, il n'y a pas de position de place actuellement non plus, pas de guidance. Donc là, on recommande de faire preuve de jugement et peut-être de s'appuyer sur la FAQ 9 dont on a parlé, qui explique que parfois des critères sont non applicables. À
Merci
suivre.
Olivier. Donc là, on vient de parler de la DNSH biodiversité. Poursuivons avec le DNSH pollution. Pour que ce DNSH pollution soit respecté, une société ne doit pas produire ou commercialiser sur le marché des produits qui contiennent un certain nombre de substances dangereuses ou toxiques. Alors, ces substances, elles sont listées dans l'appendice C de l'acte délégué. Et dans cette liste, il est notamment fait référence à la réglementation REACH, hein, relative à l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions associées à ces substances chimiques. Alors, Olivier, est-ce que tu peux nous dire comment appréhender cette réglementation dans le contexte de la taxonomie et du DNSH pollution? Est-ce que les FAQs apportent des réponses utiles?
Alors oui, alors pour commencer, il faut rappeler qu'on parle ici de substances et non de produits. C'est-à-dire que pour respecter ce DNSH, il faut que le produit fabriqué et placé sur le marché ne contienne pas de substances listées dans l'annexe C. Et donc, il peut y avoir des exceptions. C'est là-dessus que revient cette FAQ 176. Donc, il y a des exceptions si la substance est considérée comme essentielle, c'est-à-dire premièrement, si son utilisation est nécessaire pour la santé ou pour la sécurité, ou bien si son utilisation est critique pour le fonctionnement de la société. Et de plus, s'il n'existe pas d'autres solutions alternatives acceptables du point de vue de l'environnement et de la santé. La FAQ note également qu'il y a des travaux en cours à la Commission sur la notion de essential use, donc utilisation critique, et ces travaux devraient aboutir en 2023, et donc on devrait avoir encore plus de précisions cette année.
Alors maintenant, on va se pencher sur le DNSH adaptation au changement climatique. Et là encore, la Commission européenne n'est pas prescriptive, hein, sur la démarche à suivre pour analyser ces DNSH. Mais la FAQ 174 précise même qu'il n'y a pas de méthode unique pour préciser une analyse des risques et vulnérabilités sur l'objectif d'adaptation au changement climatique. Alors, néanmoins, certaines FAQs nous donnent quelques éléments de précision. Olivier, est-ce que tu peux présenter une proposition de démarche à suivre et préciser les réponses qu'apporte la FAQ sur ce sujet?
Oui, tout à fait. Donc effectivement, on vous présente une démarche pour traiter globalement ce DNSH adaptation au changement climatique et au fur et à mesure les FAQ qui sont en lien avec cette démarche. Alors effectivement, comme tu l'as rappelé Olivier, certaines réponses ont été apportées par les FAQ sur la démarche à suivre, mais il y a encore des zones d'ombre. Voilà, donc je rappelle, en fait, ce sont des informations générales là qu'on va vous présenter qui sont proposées par PwC. D'un point de vue pratique, en fait, la démarche pour ce DNSH adaptation peut s'articuler sur trois grandes étapes. La première, c'est le screening des risques climatiques. Ces objectifs sont d'écarter les risques climatiques qui ne seraient pas applicables à l'activité de manière évidente, les avalanches, le permafrost. Les enjeux de cette étape, c'est de déterminer les risques climatiques pour lesquels je dois réaliser une cartographie des risques. Cette cartographie des risques, c'est l'étape 2. Ses objectifs, donc, c'est de déterminer la vulnérabilité des activités aux risques climatiques, physiques. Et les enjeux, c'est de déterminer les activités à risque et les plans d'action que je dois mettre en place. Et finalement, l'étape 3 va consister à préparer les solutions d'adaptation qui permettent de réduire le ou les risques climatiques, physiques recensés. Alors, si on commence par le screening. Alors, point qu'on voit à plusieurs endroits dans les FAQ qui ont été publiés en décembre, qui est un rappel finalement de la position globale de la Commission, c'est que l'analyse doit tenir compte de l'ensemble de la chaîne de valeur. Non seulement les sites donc de l'entreprise, mais également fournisseurs et éventuellement clients. Néanmoins, par analogie avec la CSRD, la prise en compte de la chaîne de valeur pourra être progressive. Mais si c'est le cas, donc si dès la première année, l'entreprise ne prend pas toute sa chaîne de valeur, la société doit premièrement expliquer les efforts mis en place pour collecter l'information sur la chaîne de valeur, expliquer pourquoi elle n'a pas pu obtenir ces informations la première année et décrire les actions qu'elle met en place pour obtenir ces informations dans le futur. Et donc, une fois qu'on a posé ce principe-là, il convient de déterminer quels sont les aléas liés au climat qu'il faudra analyser. Donc là, on rappelle la liste des 28 aléas risques climatiques qu'il faut analyser. Ils sont, pour mémoire, dans l'annexe A de l'acte délégué climat. Et donc, on conseille en fait de s'appuyer sur cette liste-là qui a été explicitée par la Commission. Alors, si on passe au screening, donc à cette étape, on va pouvoir dire si un risque est non applicable, mais seulement s'il est évident que l'on peut écarter ce risque. Bon, encore une fois, par exemple, le risque d'avalanche n'est pas applicable pour un site industriel qui serait localisé dans une plaine. Donc, c'est une analyse au cas par cas et le jugement professionnel entre en ligne de compte. Alors, une fois qu'on a écarté certains risques évidents, que fait-on? Donc, c'est la deuxième étape, le cœur du sujet en quelque sorte. Donc, c'est là où on va analyser, cartographier les risques. Donc, on va réaliser donc une cartographie des risques pour déterminer le niveau de vulnérabilité des activités aux différents risques climatiques. Donc, voilà le type de cartographie de façon finalisée qu'on peut obtenir, c'est le résultat. C'est ce qui permet de dire s'il faut un plan d'adaptation ou pas. Donc, pour faire simple, quand les cas sont orange ou rouge, il faut un plan d'action. Alors, ce qu'on retrouve sur cette cartographie sont différentes dimensions. Premièrement, les aléas climatiques qui résulteront de cette première analyse de screening. Bon, ici, on a présenté deux aléas, mais la matrice, en fait, doit être utilisée en entier. En colonne, on a les différents sites. Bon, là, on en a mis deux qui sont sur les opérations directes de l'entreprise. Dans l'esprit, donc, il y a également la chaîne de valeur. L'horizon de temps aussi, ce que demande la commission, c'est d'évaluer plusieurs horizons temporels. Donc là, on a court terme, moyen terme. Et différents scénarios, donc les scénarios du GIEC, par exemple, sont à prendre en compte. Donc là, dans la matrice, le risque 4 entouré d'un pointillé, ça veut dire que le risque physique hausse des températures est majeur à court terme sur le site numéro 1, et selon le scénario du GIEC, de hausse des températures de 3,5 degrés à l'horizon 2050. Voilà, donc ça c'est le produit fini.
Alors, ouais, merci Olivier, c'est très utile, même si c'est une démarche PwC, je pense que ça clarifie l'approche. Alors, est-ce que tu peux maintenant nous dire comment on arrive à construire cette cartographie?
Alors oui, bien sûr. Donc là, si on revient sur le mode de construction, donc plusieurs paramètres sont à prendre en compte. D'abord, l'aléa climatique et l'exposition avec les cartes du GIEC. Ensuite, la vulnérabilité qui comprend la sensibilité et les capacités d'adaptation. Donc, les trois premiers critères, aléa, exposition et sensibilité, permettent de déterminer le niveau de risque brut. Puis après, si on prend en compte les mesures d'adaptation, on en déduit le risque net. Mais je peux vous l'expliquer sur un exemple. Donc, dans cet exemple illustratif, on choisit une société qui a pour activité le transport par rail. Donc, l'aléa pour lequel l'analyse est réalisée, c'est la hausse des températures. Donc, dans ce cadre-là, l'aléa climatique, si on regarde les scénarios du GIEC pour le sud de la France, on a une hausse des températures de 3,5 degrés. Le risque lié à la hausse des températures dans le sud de la France est plutôt sévère. Donc, on note dans notre exemple un score de 3. Par rapport à l'exposition, on considère que la société est exposée de manière très importante car 80% de son chiffre d'affaires est réalisé justement dans cette zone du sud de la France. Donc, on met une note, un score de 5 sur l'aspect exposition. Concernant la sensibilité, Alors oui, les rails sont sensibles à la chaleur de manière élevée, ils peuvent se déformer, donc là aussi on met une notation de 4. Par contre, en termes de capacité d'adaptation, la société illustrative n'a aucune mesure d'adaptation en place ou prévue et ne dispose pas de budget pour s'adapter. Donc dans ce cadre-là, la notation sur les mesures d'adaptation serait de 0 dans l'exemple. Donc au total, on arrive à un risque net de niveau 4, ce qui correspond à la moyenne des trois premiers facteurs, aléa, exposition et sensibilité. Et donc comme aucune mesure d'adaptation n'est en place, le risque net donc vaut le risque brut. Et donc dans ce cadre-là, en sortie de cette étape d'évaluation des risques, en fait, la conclusion, c'est que la société doit mettre en place un plan d'adaptation. Et donc, s'il y avait déjà eu des plans d'action, le risque final aurait été moins important.
Merci Olivier donc pour cette proposition de démarche. Alors on voit comment on peut construire une notation hein, qui permette de conclure à la nécessité ou non d'un plan de la mise en œuvre d'un plan d'adaptation. Alors maintenant passons et abordons certains sujets techniques hein, relatifs à ce DNSH avec une question qui se pose qui est un petit peu liée à l'horizon qu'il faut dans lequel il faut se projeter pour faire l'analyse DNSH. Quelle durée faut-il retenir pour effectuer l'analyse, Olivier?
Alors effectivement, il est important de savoir quelle est la durée d'utilisation à prendre en compte pour faire les analyses de vulnérabilité. Deux cas peuvent se présenter. D'abord, si la société est propriétaire de son actif, il faut retenir la durée de vie de l'actif. Par contre, si la société est simple exploitant, il faut retenir la durée de l'exploitation par la société. Donc, on suit le sous-jacent activité.
Et concernant les scénarios, combien les entreprises devraient-elles en réaliser de scénarios?
Alors ça, effectivement, c'est un point qui a été précisé par la FAQ. Donc, on n'a pas besoin de faire tous les scénarios du GIEC. Les entreprises peuvent en présenter plusieurs, mais en tout cas, à minima, il faut réaliser l'analyse sur la base du scénario dit SSP 5.8.5 du GIEC, qui est le scénario le plus pessimiste et qui va au-delà du business as usual. Mais les FAQ notent que ça peut permettre de prendre aussi en compte des évolutions très rapides et qui ne seraient pas complètement bien modélisées dans les scénarios. Donc en fait, il faut se poser la question en fonction de la durée de l'activité, comme on vient de le voir. Donc là, sur la slide précédente, on avait noté des scénarios d'ISSP. Dans les FAQ, ils parlent de scénarios RCP, qui sont la génération précédente, mais finalement, les RCP seraient également acceptables, bien sûr. Alors, concernant la durée, donc le nombre de scénarios doit tenir compte de cette durée sous-jacente. Donc, deux cas de figure sont possibles. Si on a une durée d'activité inférieure à 10 ans, on n'a pas d'obligation de réaliser un scénario. Voilà. Donc là, on peut se baser sur les données historiques de risque dont on dispose déjà. Par contre, si la durée est supérieure à 10 ans, plusieurs scénarios sont possibles. Et donc, là, on doit prendre en compte la durée de vie de l'actif. Et donc, on aura au moins un, voire plusieurs scénarios obligatoires. Donc, ici, je rappelle, ce point-là que je viens de discuter, c'est relatif aux horizons temporels. Et ça complète ce qu'on a dit sur les scénarios climatiques, qui là aussi peuvent être plusieurs.
Alors, donc là, tu viens de parler de la durée, de l'horizon. Il y a une autre question qui se pose, c'est celle de la granularité. Est-ce qu'il faut faire l'analyse aux bornes d'un site ou d'une région?
Alors, de façon générale, l'analyse est attendue au niveau le plus fin possible. En théorie, l'activité économique enfin, doit être découpée au niveau des sites de production, des bâtiments administratifs, du site du fournisseur, des zones géographiques, par exemple. Mais en pratique, certains regroupements sont envisageables. Par exemple, des regroupements par zone géographique, Mais bon, là aussi, il faut faire preuve de jugement parce que, par exemple, pour certains risques, peut-être qu'on peut grouper des sites sur des zones, sur des sujets de température, mais peut-être que sur des sujets peut-être plus liés à des sujets très locaux comme les risques d'inondation, là, il faut peut-être différencier certains risques les uns des autres. Et toujours garder en tête que d'un point de vue segmentation, in fine, ce que demande le DNSH, c'est une analyse de matérialité financière. C'est ça qui doit être un peu le juge pour déterminer, voilà, sur, et se concentrer sur ce qui est matériel. Alors, un autre point important qui est introduit par les FAQ, c'est la notion de proportionnalité. Justement, en fait, c'est-à-dire que l'analyse de vulnérabilité sera plus ou moins approfondie en fonction du risque et de l'impact que le risque peut avoir sur la société. Donc, les analyses seront moins approfondies pour un risque limité d'inondation sur un site qui représente 2% de l'activité d'un groupe et qui n'est pas stratégique. Par contre, si on est sur un risque élevé d'inondation pour un site qui représente 70% de l'activité, la commission attend une analyse plus précise et plus poussée. Voilà, donc l'analyse doit être proportionnelle au risque qu'on identifie. Alors, la fréquence des analyses est également un sujet qui est abordé par les FAQ. Comme on est souvent sur des scénarios de long terme, on n'a pas besoin en théorie de refaire l'analyse tous les ans. Par contre, la commission donne des indications sur les facteurs déclenchants qui pourraient conduire à une nouvelle analyse, par exemple un nouveau fournisseur stratégique. Donc là aussi, on voit donc que la commission attend plus ou moins des analyses sur la chaîne de valeur. Également, s'il y a une nouvelle usine, s'il y a un changement d'hypothèse ou de modèle sur la façon de calculer les risques, à ce moment-là, ça peut déclencher la nécessité de faire une nouvelle analyse de risque.
Alors, maintenant, passons à la dernière étape, qui est la mise en place de solutions d'adaptation. Olivier, quelles peuvent être ces solutions?
Alors, effectivement, dans cette troisième étape, on distingue plusieurs façons de répondre à l'attente de la commission en termes de plan d'action. On distingue les mesures physiques. Typiquement, je construis une digue pour limiter les effets d'une crue, mais on peut aussi penser à des mesures financières. Une entreprise qui prévoirait une enveloppe budgétaire en cas de risque climatique, mais également des mesures assurantielles. Je m'assure contre certains risques ou des sinistres climatiques. Et enfin, quatrième type, des mesures plus comportementales. Par exemple, ben, je forme les salariés pour limiter les risques. Dans la plupart des cas, l'assurance seule ne sera pas une solution suffisante, surtout pour des risques à horizon moyen ou long terme, car les assurances refusent d'assurer sur le long terme les risques climatiques. À noter, c'est un point important, que la société a un délai de 5 ans pour mettre en place ses actions dans le cadre du DNSH adaptation de l'objectif atténuation climatique. Voilà, donc le plan doit être cohérent avec les risques, hein, encore une fois, c'est-à-dire si on a un risque très fort, ben le plan doit être proportionnel et donc accorder une importance importante à l'adaptation au risque. Et donc il faut également noter. Il faut préciser à quel horizon de temps les mesures seront mises en place et documenter les mesures déjà en place.
D'accord, alors donc maintenant donc tu as bien décrit toutes les étapes, Olivier. Alors maintenant, comment fait-on pour conclure sur les DNSH?
Alors cette conclusion, ben, en fait, c'est la résultante, hein, de toutes les étapes précédentes. Donc cette conclusion est à réaliser au niveau de chaque aléa climatique. Donc plusieurs cas de figure. Premièrement, s'il n'y a pas de risque climatique, physique, matériel, le DNSH est satisfait. Par contre, si on a un risque climatique matériel et si la société a mis en place ou prévu de mettre en place des actions suffisantes pour couvrir le risque, alors là également, on pourra conclure que le DNSH est satisfait. Troisième cas de figure, en revanche, s'il y a un risque climatique matériel, mais qu'on n'a pas mis en place d'action suffisante, ou qu'on n'a pas prévu de plan d'action suffisant, à ce moment-là, le DNSH ne sera pas en conformité. Enfin, ce qu'on rappelle, c'est que l'adaptation, en fait, on le croise deux fois hein, dans cette taxonomie climat. On peut, donc, comme on l'a vu, la croiser quand on fait une analyse de vulnérabilité, quand on regarde le DNSH atténuation. Maintenant, on a également cette même analyse à faire quand on est plutôt parti sur l'objectif adaptation au changement climatique et qu'on regarde les critères de contribution substantielle. Donc, c'est un peu les deux sujets et les attentes de la commission sont les mêmes en termes d'évaluation des risques. Par contre, ce qui va différencier les deux situations entre l'objectif atténuation et l'objectif adaptation, c'est que dans l'objectif adaptation, en fait, pour être adapté, l'entreprise devra déjà avoir mis en place le plan d'action pour être considéré comme adapté. Voilà, donc là, on a fini avec le sujet des NSH et on voit qu'effectivement, en général, l'adaptation au changement climatique est un DNSH qui va demander de nouvelles analyses aux entreprises.
Oui, donc merci beaucoup hein, pour cette proposition de démarche bon, qui permet de, voilà, d'arriver à la conclusion que tu as exposée hein, sur la nécessité ou non de mettre en place un plan d'adaptation et le respect du critère DNSH. Alors, on va maintenant passer à la seconde partie de ce webcast. Hein. L'idée, c'est de vous présenter les principaux sujets qui n'ont pas été couverts par les questions-réponses publiées par la Commission européenne. Comme vous avez pu le constater, les dernières FAQs publiées n'ont pas abordé tous les sujets, notamment celui des garanties minimales. Alors, aucune précision n'a été apportée sur ce sujet. Nous aborderons donc dans cette partie cette thématique, hein, en pratique, comment faire. Et on poursuivra en présentant les obligations en matière de publication et en matière d'audit. Alors, je me retourne vers Yanja pour vous demander quelles sont vos recommandations concernant les problématiques non couvertes par les FAQs, hein, quels sont les sujets où il manque de la guidance et que faire, selon vous, en l'absence de précisions apportées par ce jeu de questions-réponses.
Alors, en point de recommandation générale, et cela ne surprendra pas, c'est vraiment la transparence dans la DPEF sur ce qui a été fait, que l'on soit d'ailleurs dans une situation où la guidance n'existe pas, mais également dans les situations qu'on a pu évoquer précédemment, où la FAQ apporte des éléments, mais on peut avoir des situations où la FAQ indique par exemple que plusieurs approches sont possibles. Donc là, on a également voilà, des jugements à faire, une approche à définir. Donc, il s'agit d'expliquer ces hypothèses, ces méthodologies retenues, les jugements opérés. Donc, transparence et clarté, également de la pédagogie parce qu'on est vraiment sur des sujets, on l'a vu, très, très compliqués, complexes. Il s'agit d'expliquer aux lecteurs pourquoi l'approche retenue est la plus pertinente selon la société au regard des éléments qui sont disponibles à date. Donc, l'objectif, hein, encore une fois, c'est de vraiment permettre de comparer les approches qui peuvent être différentes d'une entité à une autre sur ces différents aspects. La transparence concerne bien sûr donc les méthodologies, les hypothèses, mais également les résultats obtenus qui doivent être, à notre sens, contextualisés. Donc, c'est éclairer sur les écarts qu'il peut y avoir, par exemple, entre le taux d'éligibilité affiché et le taux d'alignement, sur quels critères, quelles étapes. Finalement, l'analyse a, enfin, quels critères n'ont pas été respectés ou on n'a pas pu démontrer pour arriver à l'alignement. Point de vigilance dans la mise en œuvre de ces approches en l'absence de guidance. Je pense qu'il faut être vigilant par rapport à des positions entre guillemets pushy qui pourraient être remises en cause par la commission. Donc, un changement de KPI mettant de 0% ou 5% aujourd'hui pour une société en alignement vers un taux beaucoup plus élevé demain sera sans doute enfin, probablement plus aisé à expliquer au marché qu'un changement inverse où il faudra expliquer pourquoi on a communiqué sur un taux mettant à 100%, mais finalement il est à zéro parce que j'ai changé l'approche pour telle et telle raison. Donc les réactions du marché peuvent être plus compliquées dans cette deuxième situation. Donc en l'absence de guidance, transparence, mais également transparence dans l'absolu, mise en œuvre de jugement, mais un jugement raisonnable au vu du texte et de l'esprit du texte, et bien sûr, donc explication claire, pédagogique et transparent sur ces éléments-là. Je terminerai par un dernier message un peu général. On voit bien aujourd'hui, hein, 2 ans après l'entrée en application du texte, que les questions et les sujets d'application de cette réglementation sont encore nombreuses. Donc, il est vraiment important de continuer collectivement à remonter les questions, les sujets d'application et d'interprétation auprès des différentes instances, des autorités nationales et européennes, de sorte à avoir des réponses communes sur ces sujets-là, puisqu'on est sur un texte européen et il est important d'avoir des réponses au niveau européen. Voilà, merci Olivier.
Ouais, merci beaucoup Yanja, et je pense que c'est effectivement ta dernière recommandation qui a permis aussi à la Commission européenne de publier son jeu de questions-réponses, hein, c'est en remontant toutes les questions qui émergent dans la mise en application. Alors, commençons maintenant par les garanties minimales, hein, les minimum safeguards. Et là, je vais passer la parole à Myriam. Myriam, est-ce que tu peux nous dire comment appliquer en pratique ces principes de garantie minimale?
Merci Olivier. Bonjour à tous. Pour qu'une activité économique soit alignée à la taxonomie, elle doit respecter les garanties minimales. On vous a rappelé l'extrait du règlement taxonomie sur les garanties minimales. C'est un simple article qui rappelle que les garanties minimales se basent sur les principes directeurs de l'OECD UNGP. Vous remarquerez que le règlement taxonomie est très peu précis sur la mise en pratique de ces garanties minimales. En revanche, la plateforme Sustainable Finance a apporté des précisions avec la publication en octobre 2022 de la version finale de son rapport sur son application. Ce rapport n'est pas un texte officiel de la Commission, mais il a le mérite d'apporter des éléments de guidance et surtout, il se base sur les textes sources de minimum safeguards, OECD et UNGP. Alors, première question, quel domaine couvre les garanties minimales? Comme vous pouvez le voir sur ce slide, il s'agit des human rights, corruption, taxation et fair competition. Les garanties minimales ne sont pas que sociales. Et deuxième question, faut-il prendre en compte la chaîne de valeur? Oui, mais elle ne sera prise en compte que pour les piliers human rights et corruption avec progressivité, et ce par analogie avec la CSRD qui introduit une clause de progressivité pendant 3 ans. Je passe la parole à Anne.
Merci Myriam. Donc effectivement, si on peut revenir une seconde sur le slide précédent, c'est assez important ce que vient de dire Myriam, parce que du coup, on dit les garanties minimales qu'on a appelées par abus de langage garanties sociales, et ben finalement, elles ne sont pas que sociales. Et sur la deuxième question, qui est la considération, la prise en compte de la chaîne de valeur, là, le rapport apporte pas de précision, mais par contre, l'analogie qui est faite avec la CSRD, c'est de dire, bon, dans la CSRD, on sait qu'il va y avoir de la progressivité sur la chaîne de valeur. Donc, a priori, dans la taxonomie, on n'a pas faux si on se dit qu'il faut aussi, on peut prendre en compte une approche progressive. Voilà. Sur le slide suivant, ce qu'a dit Myriam, c'est également important. Donc, elle dit la plateforme apporte quelques indications parce que ce règlement taxonomie, il ne dit pas grand-chose sur les minimum safeguards. Donc, ce que propose la plateforme, et qui a le mérite d'être assez clair, c'est de dire, pour être compliant avec les minimum safeguards, on va aller vérifier 2 choses. 1, est-ce que j'ai un process? Et 2, est-ce que j'ai des condamnations? Et donc, ils essayent de donner comme exemple des signes qui pourraient être des signes de non-compliance. Pour ne pas faire de suspense, on peut déjà dire que la partie sur le sujet du process est assez claire, et du coup, on va vous la détailler et vous l'illustrer sur certains exemples. En revanche, la partie sur l'absence de condamnation, là, pour le coup, il faudra vraiment qu'ils apportent des précisions parce que ça pose d'énormes problèmes en termes de compréhension de cette terminologie de condamnation. Et du coup, on va revenir aussi sur certains exemples pour essayer de vous apporter quelques éléments de réponse. Donc, ces signes de non-compliance, c'est quoi? Que ce soit sur human rights, corruption, taxation et fair competition, on dit 1, il faut un process. Donc sur human rights, si on n'a pas de process adéquat de due diligence, etc., ça va poser des problèmes. Donc ça, on va vous prendre des exemples et vous les détailler un peu sur chaque domaine. Et ensuite, la deuxième chose, c'est le fait d'avoir des condamnations et donc de violation d'un de ces thèmes. Sauf que le niveau des condamnations, et c'est ce qui s'affiche sur ce slide, va complètement dépendre de plein de choses. Et donc aujourd'hui, je vais lister les questions, mais aujourd'hui, en gros, en l'absence de claire définition des condamnations, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Par exemple, est-ce qu'un redressement fiscal, c'est une condamnation? Est-ce qu'une condamnation qui a eu lieu il y a 20 ans, mais qui n'a plus de conséquences aujourd'hui, c'est une condamnation? Est-ce qu'une condamnation où le processus juridique n'est pas encore arrivé à son terme est en cours, est-ce que c'est une condamnation? Comment est-ce qu'on fait la différence entre un cas mineur et un cas majeur? C'est pas vraiment défini. Donc, quand est-ce que démarre une condamnation? Parce que parfois, le processus juridique n'a pas démarré, mais par contre, il y a des gros signes de condamnation. Donc, comment est-ce qu'on se pose ces questions? Et du coup, aussi une autre question, est-ce qu'il est possible d'être compliant au niveau du groupe si on a eu une non-compliance au niveau d'une activité? Tout ça, ce n'est pas expliqué. Et du coup, il va vraiment falloir qu'ils fassent des FAQ sur ce sujet des minimum safeguards. On va se rattacher à ce qu'a dit l'AMF, c'est-à-dire se rattacher à faire un jugement qui soit raisonnable. Alors, elle n'a pas utilisé ces mots-là, Yanja, mais du coup, moi, je caricature en disant quand même qu'il y a un espèce de principe de prudence et surtout, il y a un principe de transparence. Voilà. Donc, le sujet des condamnations, pas clair. Et par contre, revenons quand même sur le sujet des process, parce que là, ça a le mérite d'avoir un peu été précisé. Et du coup, on a la chance en France de pouvoir se rattacher aux branches de textes existants comme le devoir de vigilance ou Sapin 2 sur la corruption. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? En termes de process, par analogie, on est en train de dire que ce soit dans le devoir de vigilance ou dans les textes OECD, UNGP, Guidelines, pour avoir ce process, le minimum, c'est d'adresser les 6 piliers de ces guidelines. Donc finalement, à partir du moment où on sait que dans le devoir de vigilance français, il n'y en a que 5 des piliers, mais globalement, ça se recoupe, est-ce qu'on a une politique? Est-ce qu'on est capable d'identifier les adverse impacts, donc cartographie des risques? Est-ce qu'on a pris des mesures pour mettre fin aux impacts? Est-ce qu'on a suivi la mise en œuvre de ces actions et de leurs résultats? Est-ce qu'on a communiqué publiquement sur l'approche de due diligence? Est-ce qu'on a des mécanismes de whistleblowing? Donc là, on voit bien qu'on peut se raccrocher au devoir de vigilance en France. Donc, sur la compliance vis-à-vis de ce process. Et de la même manière, alors les piliers ne se recoupent pas complètement, mais sur la loi Sapin 2 en France, de la même manière, on a les piliers Sapin 2 que je ne vais pas énumérer là, mais en France, on a la chance de pouvoir se raccrocher à ça. On ne va pas rentrer dans le détail de tous ces piliers. Et Olivier, je te repasse la parole.
Myriam, pour ces précisions sur ces minimum safeguards. Alors maintenant, passons à la partie sur les disclosures. Et là, je vais passer la parole à Stéphanie. Est-ce que tu peux nous dire, Stéphanie, sur les quelles sont les informations à présenter concernant l'alignement?
Oui, alors bonjour à tous. Donc, le règlement article 8 détaille toutes les informations qui sont à discloser dans le cadre de la taxonomie. On ne va pas redescendre toutes ces informations, mais on va porter à votre attention des informations qui nous paraissent importantes pour le reporting 2022, donc qui sera donc publié en 2023. Donc la première, donc je vous le rappelle, les entreprises, elles doivent communiquer sur l'éligibilité et sur l'alignement sur les deux objectifs climat. Cette année, pas de comparatif. Le premier comparatif sera présenté l'année prochaine. Les templates de la commission, ils sont obligatoires, notamment du fait du tagging XBRL, des informations qui interviendra au moment de la CSRD. Pour les activités alignées, les informations sont à présenter de manière détaillée, c'est-à-dire activité par activité. Et pour les activités non alignées, en revanche, il n'est pas nécessaire de les détailler. Et enfin, cette année, il faudra vraiment porter une attention toute particulière aux informations narratives qui sont demandées. L'année dernière, c'était relativement plus simple du fait qu'il y avait uniquement l'éligibilité sur laquelle il fallait reporter. Donc, PwC a développé une checklist pour appréhender toutes les disclosures nécessaires. Si on passe maintenant au template qui doit être rempli, donc là, à l'écran, on vous présente le template pour le chiffre d'affaires. C'est à peu près le même tableau pour chaque KPI. Donc, le template doit être complété en totalité. Si on commence par la colonne de gauche, donc vous devez compléter cette partie avec un premier bloc qui est le bloc A1 et qui correspond à la liste des activités éligibles et alignées. Ensuite, le bloc A2 qui correspond aux activités éligibles et non alignées. Puis, en bas du tableau, dans le bloc B, les activités qui sont non éligibles. Donc, le chiffre d'affaires qui est mentionné pour les blocs A et B, la somme de ce chiffre d'affaires-là, doit être égale au total du chiffre d'affaires qui est présenté dans les états financiers. Pour les activités qui sont éligibles mais non alignées, c'est seulement le chiffre d'affaires en valeur et en pourcentage qui doit être complété. Une question qui est beaucoup remontée sur ce template, qui correspond aux colonnes qui sont en orange sur le template. Donc, en fait, le template de la commission, il est fait de telle manière que pour le bloc aligné, les deux colonnes, donc les colonnes 4 et les colonnes 18 en orange sur le slide, se retrouvent être identiques. Ce point de présentation et du fait que ces deux colonnes soient identiques n'a pas été traité dans les FAQ. Si on passe maintenant au slide suivant, avec quelques points d'attention sur les informations narratives qui sont à fournir. Donc là, de la même manière, on va pas tout détailler. On peut les regrouper en trois catégories. 1, les principes de comptabilisation. 2, la compliance avec la réglementation. Et 3, les informations contextuelles. Donc si on revient sur certains points, donc ce qu'il faudra détailler, c'est les méthodes de calcul des KPI. Notamment si, par exemple, des clés de répartition ont été utilisées ou des proxys sont utilisés pour le calcul des KPI. Dans ce cas-là, il faut que les entreprises le précisent et quels sont les rationnels derrière qui ont été choisis pour calculer les KPI. Les informations sur la taxonomie, elles doivent être réconciliées avec les états financiers. Si jamais des restatements devraient être réalisés, notamment par exemple parce qu'une FAQ aurait apporté des précisions ou des éclaircissements, donc des modifications devraient être apportées au calcul d'un KPI, il faudrait restater ce qui a été fait l'année précédente et bien décrire quels sont les impacts sur les ratios. Les activités qui sont éligibles et alignées doivent également être décrites dans les notes. Et enfin, un dernier point d'attention qui concerne les plans CAPEX. Si des plans CAPEX sont prévus, sont mis en place, donc les CAPEX de catégorie B, il faudra bien que ce plan soit détaillé dans les notes. Donc, quels sont les investissements qui sont prévus, à quel horizon de temps, et préciser que le plan a bien été approuvé par un organe de direction.
Merci beaucoup Stéphanie. Alors, progressons dans nos sujets. Abordons maintenant le sujet de l'audit. La question de l'audit est abordée dans la CSRD. Est-ce que Stéphanie, tu peux nous préciser ou nous rappeler quels sont les éléments qui sont les précisions, c'est ce qui est prévu par la CSRD en matière d'audit et d'assurance à donner d'une manière générale, mais au cas particulier de la taxonomie.
Oui. Alors, actuellement, les informations taxonomie, elles sont incluses dans la DPEF. Mais en revanche, l'organisme tiers indépendant n'a pas à les revoir. Donc, ces informations taxonomie, elles sont dans le scope du commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit vérifier que les informations sur la taxonomie sont bien présentes dans la DPEF. Il doit effectuer une lecture d'ensemble des informations qui sont présentées et elles sont considérées comme des autres informations qui sont incluses dans le rapport de gestion. Et si le commissaire aux comptes est amené à constater une absence d'informations requises ou des inexactitudes qui pourraient influencer le jugement des utilisateurs des comptes de la société ou leur prise de décision, dans ce cas-là, le commissaire aux comptes doit signaler des irrégularités. Actuellement, les informations de taxonomie, elles font donc l'objet d'une lecture d'ensemble et pas d'un audit. Mais en revanche, si elles le souhaitent, les entreprises, elles peuvent demander une revue externe et c'est alors une revue volontaire. Avec la CSRD, le scope va s'élargir et les informations taxonomie feront l'objet d'un audit. Donc, quels sont les changements que la CSRD va apporter en termes d'audit ? Donc, je le rappelle, la CSRD, elle entre en vigueur en 2025 sur les reportings 2024 pour les premières sociétés qui sont concernées. Et le reporting de durabilité, il sera audité soit par le commissaire aux comptes, soit par un tiers indépendant accrédité. Donc là, sur ce slide, il faut retenir deux choses. Donc, la première, c'est que l'auditeur devra émettre dans un premier temps une opinion d'assurance modérée entre 2025 et 2028. Et ensuite, ça sera une opinion d'assurance raisonnable à partir de 2028 au plus tôt. Et la deuxième chose importante à retenir, si on fait un zoom sur le comité d'audit, c'est que toutes les règles qui s'appliquent actuellement au comité d'audit en matière d'information financière, elles seront étendues au reporting de durabilité. Et de tout cela découle un réel enjeu de formation pour les commissaires aux comptes, pour les comités d'audit, pour ne citer que.
Alors on en a terminé avec cette partie. Ce qui nous conduit maintenant à partager avec vous un retour d'expérience. Et pour cela, je vais passer la parole à Thibaut Grandjean. Thibaut, donc je rappelle que vous êtes Finance Transformation et Sustainability Leader chez Dassault Systèmes. Est-ce que vous pouvez partager avec nous votre retour d'expérience sur le projet taxonomie ?
Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité pour partager un retour d'expérience. Donc, je pense qu'il y a déjà un certain nombre de difficultés qui ont été abordées. Donc, je vais peut-être concentrer sur les aspects positifs de notre démarche. Donc, déjà, je pense que l'élément clé, et je pense que vous l'avez déjà bien traduit dans cette présentation, c'est un sponsorship important de la part de la direction financière sur le travail de ce KPI, de ces KPI. Mais pas seulement, aussi dans la conduite des travaux qui amènent à la constitution de ces KPI. De notre côté, ce qui a vraiment bien fonctionné, c'est la mise en place d'une équipe pluridisciplinaire, donc qui s'appuie à la fois sur la direction financière, mais aussi sur les directions techniques, en fonction des activités qui sont concernées. Mais tout de même avec une volonté de centraliser, de connecter assez rapidement le leadership avec les dimensions techniques de chacune des fonctions, sous la direction d'une équipe centralisée en charge d'analyser la norme, de la comprendre et de voir la manière de l'appliquer. Donc, on a une équipe qui est à la fois assez proche du top management, mais aussi très très proche des équipes qui sont en charge des différentes activités. Et ça, c'est vraiment très important pour ne pas perdre en efficacité. La norme est assez compliquée à mettre en œuvre, donc si on se perd un petit peu dans les méandres des organisations, on a un risque d'inefficacité et de ne pas être en mesure de produire ce qu'on attend de nous. Je dirais que l'autre point assez sensible dans notre retour d'expérience, c'est l'approche du reporting financier. On a vraiment souhaité s'appuyer sur l'expertise d'une direction financière sur la gestion d'un KPI avec une grande fiabilité, une grande qualité et une certaine cohérence d'information. Donc, ce sont des attributs qu'on a beaucoup l'habitude de manier dans les fonctions financières, ce qui peut être parfois un peu moins le cas dans les dimensions RSE. Donc nous, ça a été vraiment très important pour nous et l'illustre notamment pour le calcul de certains indicateurs qui demandent des allocations ou des estimations, d'avoir des logiques d'approximation qui sont proches du contrôle de gestion. Je dirais que ça a été assez sensible pour aboutir à un résultat sans se perdre dans des usines à gaz ou des mécaniques qui sont trop compliquées à mettre en œuvre. Et pour ça, on a dû bien évidemment s'appuyer sur les systèmes financiers pour collecter de l'information rapidement, structurée, et de pouvoir répliquer rapidement ces dimensions-là. Donc voilà un petit peu le retour d'expérience que je peux faire déjà sur cette partie-là.
Merci beaucoup Thibaut. Alors, bon, donc je retiens aussi dans les messages que vous avez passés l'importance d'une équipe qui est centralisée et à la fois connectée aux équipes qui sont en charge des activités et puis proche du top management pour les raisons que vous avez évoquées. Alors, quelles sont maintenant les difficultés, puisque le thème aujourd'hui, c'était en partie, en tout cas, c'est le thème de l'année, le sujet de l'alignement. Quelles sont les difficultés que vous pose l'alignement de cette année ?
Alors, je pense que vous en avez couvert un certain nombre, mais je pense que de manière générale, les zones d'interprétation ou d'absence de précision de la norme qui posent beaucoup de soucis au niveau opérationnel. On a un nombre d'exemples assez conséquents dans les FAQ, mais même au-delà dans la manière de mettre en œuvre. J'en citerai une seule qui est au sujet de l'activité 8.1, qui est relative au data processing par les data centers. Voilà, on a un certain nombre de mesures qui sont difficilement appliquées aujourd'hui par le secteur d'activité, et donc qui laissent les entreprises et les émetteurs qui souhaitent reporter sur la taxonomie devoir interpréter la manière de mettre en œuvre de ces contrôles. Donc c'est vrai que dans les FAQ, on a eu quelques surprises, ou plutôt absence de clarification sur des sujets bloquants. Je pense notamment aussi à la définition un petit peu plus précise des natures d'OPEX. Je pense que le sujet a été évoqué au tout début. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui nous pose beaucoup de difficultés dans l'alignement. Ensuite, je pense que tout le monde dans ce call sera assez d'accord avec ce deuxième point, qui est plutôt la question des ressources disponibles dans les équipes opérationnelles, et puis surtout les ressources qui ont la capacité de monter en compétence sur ce sujet, qui est très technique, qui est très normé, qui fait appel à une compréhension assez fine des standards de secteur et d'activité. Donc on a un certain pushback qu'il faut lever, donc c'est aussi l'intérêt d'une cellule de transformation en charge de ce type de sujet. C'est d'amener un chemin critique à être mis en œuvre sur ces questions-là pour pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche vers l'alignement. Ensuite, je pense qu'on a un point qui est une question de comparabilité et de centrage de la norme qui vient de l'Europe. Or, on a dans certains domaines, je pense notamment au sujet de la construction, un blocage par rapport à cette transcription dans différents pays. Nous, on a eu le cas en Inde ou en Chine où on a beaucoup de difficultés à trouver cette transposition de la norme ou de la directive européenne dans ce type de pays. C'est un exemple, mais ça génère beaucoup de difficultés dans la documentation de l'alignement. Et si on prend même de manière générale la justification de l'alignement, on a quand même un niveau de contrainte extrêmement exigeant pour qu'une activité soit alignée, ce qui porte un petit peu atteinte à l'objectif de comparabilité entre entreprises à des niveaux relativement raisonnables de contribution aux objectifs. Donc voilà un petit peu les trois principaux que je voulais évoquer. Et puis je pense qu'il y en a un autre qui a été évoqué, qui était la comparabilité des business models. On peut avoir dans un même secteur d'activité pas du tout la même approche sur la gestion notamment des CAPEX ou des OPEX. Nous, je pense à l'activité de recherche et développement qui peut être pas du tout gérée de la même manière. C'est vrai que ça pose quelques contraintes ou quelques difficultés pour documenter.
Merci Thibault. Alors peut-être une dernière question. Quel est votre rapport d'étonnement, si je puis dire, sur le règlement taxonomie et puis et surtout peut-être les conséquences sur votre entreprise et son activité?
Alors nous on a vu la taxonomie comme un vrai vecteur de changement des pratiques et on va dire des mentalités à l'intérieur de l'entreprise. On avait, j'imagine, comme un certain nombre d'acteurs, une vision centrée financière ou RSE. On va dire que c'est le premier KPI ou le premier sujet qui nous rapproche véritablement dans les deux univers. Donc ça, pour nous, ça a été assez important comme choc au démarrage de cette norme. Comment finalement utiliser cette norme comme un vecteur de transformation de nos organisations et des mentalités? Donc c'est pour nous un vrai instrument de sensibilisation, de conviction, notamment vis-à-vis des investisseurs, pour sortir progressivement des indicateurs purement financiers et d'aller vers des indicateurs plus justement à impact et à impact environnemental pour démarrer. Ça appelle aussi nos organisations à modifier certains critères de décision, et notamment de décision d'investissement. Je pense notamment quand on peut avoir un plan de CAPEX, nous je représente l'activité data center à nouveau, mais ça va devenir vraiment très significatif dans nos demandes d'information aux potentiels fournisseurs. Donc voilà, pour les structures financières dont je suis issu à l'origine, c'est vrai que c'est un premier pas vers une information non financière beaucoup plus structurée et fiabilisée, et qui sera équipée de processus à terme qui sera au niveau du reporting financier. Et donc ça, je pense que pour nous aussi, c'est un vecteur de transformation assez important. Pour l'entreprise de manière plus générale, pour nous, c'est aussi une opportunité de présenter un profil plus vertueux de l'entreprise, qui nous démarque véritablement d'autres acteurs, peut-être du même secteur. Voilà, on a vraiment le sujet de la comparabilité qui doit être réglé avant ça, et je crois qu'on a évoqué la phase de convergence sur la mise en œuvre qui est encore, je ne dirais pas embryonnaire, mais qui est encore au stade du tâtonnement. Sur certains secteurs d'activité, on a encore beaucoup de travail à faire. Je pense que ça reprend un petit peu le chemin qu'avaient pris les IFRS il y a quelques années. Mais pour nous, c'est vraiment une opportunité, on le visualise comme une opportunité. Mais voilà, pour réaliser pleinement sa valeur, il va falloir une forme de simplification, de convergence des pratiques, de trouver ce curseur hein, sur la partie comparabilité. Et je pense à un autre point qui est les bornes de la chaîne de valeur et la manière de gérer ces sujets-là.
Très bien, bah, Thibaut, un grand merci hein, pour ce témoignage, ce retour d'expérience. Alors, ça clôt un petit peu notre présentation d'aujourd'hui. Alors, quelques informations additionnelles pour les besoins de nos participants. Déjà, la publication des illustratifs sur l'alignement au titre de l'exercice 2022 est imminente. Alors, on vous rappelle en attendant que les publications sur l'éligibilité ont déjà été effectuées en 2022 au titre de 2021, donc vous pourrez les retrouver dans les liens dans la présentation. Prochain rendez-vous sur le reporting de durabilité, on aura un webcast le 11 février qui sera consacré aux obligations de contrôle interne sur le reporting de durabilité. Et puis début mars, un webcast consacré au projet de normes ESRS qui ont été publiés par les FRAG en novembre dernier. Un certain nombre de questions ont été posées, donc je vous suggère qu'on les prenne puisqu'on a un petit peu de temps. En fait, vous avez été nombreux à poser beaucoup de questions, donc si je les regarde. Alors, une première question, est-ce que le goût d'huile est bien à exclure du dénominateur des CAPEX hein? Une question, Anne, que je me permets de te poser.
Merci. Oui, je confirme, c'est bien à exclure du dénominateur.
Une deuxième question pour Yanja, si vous voulez bien. Qui porte sur un petit peu sur le timing de la publication de ces FAQ qui étaient très nombreux et qui sont arrivés effectivement assez tardivement dans le calendrier. Donc un participant qui s'émeut de ce calendrier et de la capacité de prendre en compte ces FAQ dans le processus de production des rapports de cette année.
Oui, merci Olivier. Alors effectivement, les sociétés travaillent bien sûr et heureusement bien avant la date de clôture hein, sur leur reporting financier extra-financier. Et on comprend que certaines sociétés peuvent avoir éprouvé des difficultés à appliquer l'ensemble des réponses apportées par ces FAQ qui sont sorties effectivement à une date proche de la clôture. Une fois la clôture passée, les travaux ne sont pas terminés pour autant puisque les publications ne sont pas concomitantes à la date de clôture et ont lieu souvent entre février et avril. Comme je l'indiquais plus tôt en début de conférence, les FAQ ont vocation à aider dans la réalisation de ces travaux. Ils viennent préciser les modalités d'application de la législation existante, donc elles ne viennent pas rajouter d'obligations nouvelles. Si néanmoins des circonstances spécifiques amènent à ce qu'une société n'a pas pu appliquer certaines dispositions de ces FAQ malgré ses meilleurs efforts, il faut, comme je l'indiquais, expliquer dans la DPEF la situation et ses circonstances particulières qui amènent à cette situation.
Merci Yanja. Autre question sur l'acte délégué agriculture. Une question un peu donc sectorielle, dont il est observé qu'il n'est toujours pas publié. Que fait-on en attendant? Est-ce qu'on ne publie rien pour l'activité agricole? Peut-être une question pour Olivier.
Effectivement, actuellement, le cadre, c'est ce qui est publié, ce que rappelait Anne au début. Donc, l'agriculture n'est pas effectivement tellement perçue par les activités actuelles. Dans le cadre des quatre autres objectifs, il y aura effectivement plus de choses qui seront pertinente pour les entreprises agroalimentaires et donc la publication est attendue pour cette année.
Et peut-être sur ce qu'on peut faire en attendant, parce que c'est vrai que on a quand même un rapport draft, enfin un rapport définitif d'ailleurs de la plateforme sur les quatre autres objectifs environnementaux. À l'intérieur, il y a des éléments de critères sur l'élevage, les cultures. Déjà, il y a ça qui existe. Et ensuite, il y a cette possibilité, certaines entreprises le font, de publier des KPI additionnels, toujours en respectant les éléments qu'on a mentionnés plus tôt dans le webcast.
Autre question, c'est la tension qu'il peut y avoir, peut-être une question pour toi Anne, la tension qu'il peut y avoir entre la réglementation locale versus la réglementation européenne. De fait, quelle réglementation suivre?
Alors, je comprends tout à fait cette question et elle n'est pas du tout simple. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire du cas par cas. Alors, ce n'est pas très satisfaisant. On a bien conscience que dans cet acte délégué avec les critères, il y a certaines activités qui ont des critères éminemment européens et à chaque fois, ils disent, et du coup, en dehors d'Europe, que faire? Donc, le « en dehors d'Europe », ça peut être d'appliquer les critères européens malgré tout ou alors d'appliquer des normes internationales. Donc, oui, c'est un point d'attention, oui, c'est compliqué et il n'y a pas une réponse générale, c'est en fonction de chaque activité et des critères qui sont définis.
Question suivante, Olivier, tu avais préconisé de faire le risque de mapping sur le changement climatique site par site. Alors, comment faire si l'entreprise a de très nombreux sites? Et l'exemple qui est cité, c'est il y en aurait plus de 500.
Alors, effectivement, il y a cette notion de progressivité qui est suivie par pas mal d'entreprises et je pense que c'est une bonne approche. Et de se référer, par exemple, à des données plus régionales, comme il y a dans l'Atlas IPCC qui permet d'avoir une approche par zone géographique, pour commencer.
Autre question concernant REACH, dont on a parlé concernant les DNSH polluants. Concernant ROHS, les exemptions semblent ne pas être acceptées par la taxonomie. Est-ce que l'on confirme la taxonomie serait donc plus restrictive que la réglementation de l'Union européenne?
Oui, non. Il y a effectivement dans les FAQ, il y a pour le coup un paragraphe qui est très important, qui traite justement de cette directive rose et qui vient dire, et c'est le bienvenu parce que c'est une question que tout le monde se posait, cette directive rose, elle a un certain scope et du coup, par définition, il y a certaines activités qui en ont été exclues. Donc, ils disent... les moyens de transport pour les personnes, ce genre de choses. Et donc, du coup, ça vient légitimer le fait que, à partir du moment où on est hors scope de rose, le critère de la pollution DNSH n'est pas applicable. Voilà. Donc, ça vient confirmer cette compréhension-là.
Merci Anne. Autre question peut-être aussi pour toi, Anne. C'est une question assez pratique et sans doute qui avec un peu de jugement, mais quel niveau de profondeur pour les disclosures sur les minimum safeguards?
Oui, alors là-dessus, il n'y a pas de guidance, effectivement, c'est du jugement. Je pense qu'il faut décorréler deux choses. Un, venir développer des position papers en interne pour expliquer en quoi est-ce qu'on est compliant, en quoi est-ce qu'on a considéré qu'on était compliant, en venant s'appuyer sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec l'existence d'un process, l'absence de condamnation, pourquoi on considère qu'il n'y a pas de signe de non-compliance, etc. Ça, c'est plutôt de la documentation interne. Et ensuite, il y a ce qu'on va venir expliquer dans la DPEF sur les minimum safeguards. Donc, le texte n'explique pas ce qu'on doit venir préciser, mais à minima, c'est le minimum du minimum, par rapport au sujet du devoir de vigilance, venir dire qu'on respecte le devoir de vigilance et qu'en ça, on vient respecter les textes fondateurs auxquels fait référence le règlement taxonomie. Et du coup, si on veut aller un peu plus loin, on peut évoquer le sujet de en quoi est-ce qu'on a les bons process et en quoi est-ce qu'on n'a pas de signe de non-compliance sur les condamnations.
Merci beaucoup Anne. Je pense qu'on a fait le tour des questions principales qui nous ont été posées. Je ne doute pas qu'il y en a, il y en aura vous en avez certainement d'autres à l'esprit. Et, pour traiter les autres, je vous encourage à prendre contact avec vos contacts habituels dans notre organisation. Donc, je propose que l'on close ce WebEx. Il me reste à remercier nos invités, Thibaut Grandjean et Yanja Ramananarivo, pour leur participation de grande qualité à ce WebEx, leur témoignage, et puis toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce WebEx, et puis particulièrement à Anne Langlais qui a assuré la coordination de la préparation. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne continuation dans vos travaux. Je vous dis à février, puisque pour les autres WebEx que j'ai annoncé tout à l'heure, le WebEx du 11 février, notamment sur le contrôle interne.
Le 16 février.
Bon. En tout cas, vous recevrez une invitation pour vous y inscrire. Voilà, bonne journée à tous.